Déambulation.
Bienvenue sur RDWA 107.5 FM, rdwa.fr, avec Guillaume. Aujourd'hui, nous accueillons Monique et Sophie de l'association Les Amis de l'Orgue ADI.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très contents de venir pour présenter un nouveau concert le 11 mai 2014 dans la cathédrale de Die.
Alors, pouvez-vous dans un premier temps nous représenter l'association, puisque les auditrices et les auditeurs de RDWA vous ont déjà écouté, mais pour ceux qui vous connaîtraient un petit peu moins.
Oui, alors c'est une association qui a été créée en 1997 et aujourd'hui il y a une soixantaine d'adhérents et les buts de l'association sont divers, c'est-à-dire que la première chose c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux orgues à Die, un dans la cathédrale et un au temple, et l'association est chargée donc d'entretenir ces orgues et de faire venir un accordeur régulièrement. Le deuxième but c'est l'organisation de concerts maintenant, donc d'où le concert du 11 mai. Et on peut aussi dire un tout petit mot sur les actions pédagogiques en cours, c'est-à-dire que les élèves de classes diverses de Die viennent découvrir les orgues de la cathédrale et du temple. On a eu les maternelles, on a eu des classes de 5e et maintenant ce sont des classes de primaire qui... C'est en cours, il y a une classe de Notre-Dame et il va y avoir les élèves de l'école Chabestan bientôt. Voilà.
Voilà, donc là j'ai eu la réponse à toutes mes questions, c'est formidable. Est-ce que c'est une spécificité du Diwa d'avoir deux orgues au même endroit ?
Je crois que dans la région, il y a une église et un temple l'un à côté de l'autre. Et quand même, dans notre association, nous sommes œcuméniques et c'est peut-être assez rare dans la Drôme d'avoir une association qui associe deux orgues catholiques et protestants.
Voilà, les lieux sont donc une église catholique et une cathédrale catholique et un temple protestant. Mais on peut aussi dire que nous essayons d'ouvrir à tout le monde cette connaissance de l'instrument aussi. Et c'est pourquoi nous proposons des concerts culturels aussi.
Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un événement spécial, puisqu'il va s'agir d'un concert qui aura lieu bientôt.
Oui, tout à fait. Alors, ce concert, le dimanche 11 mai, à 15h dans la cathédrale, concert organisé par les Amis de l'Orgue à Die dans le cadre de la Semaine nationale de l'Orgue, parce que cette association appartient à deux mouvements, un mouvement départemental de l'Orgue de la Drôme-Ardèche et un autre mouvement national, tous les Orgues de France. Orgue en France existe depuis quelques années et pour vraiment faire bien connaître les orgues dans tous les domaines, aussi bien sociaux, politiques, économiques, voilà. Il y a une journée forte qui est le 11 mai dans toute la France et toutes les orgues jouent à ce moment-là. Donc nous appartenons à ce grand mouvement. À l'origine de ce concert, il y a la rencontre d'un organiste très sympathique qui s'appelle Jean-Luc Guyard et qui vient tous les ans en été passer des vacances sur Die, qu'il aime beaucoup. Il a des attaches familiales et donc est venu le projet d'un concert à Die. Et puis le deuxième motif, c'est que je me suis souvenue des beaux tableaux qui ont été restaurés, les 5 tableaux de la Vierge, quand je suis arrivée. Donc je pense que la restauration a lieu entre 2006 et 2009. Et les 5 tableaux de Louis Court, qui sont dans le cœur de la cathédrale, a fait tilt. Et vraiment, on peut dire que c'est très intéressant. Ça sera un concert original dans le sens que ces tableaux ont inspiré, l'organiste qui va improviser à la vue de ces 5 tableaux. Alors c'est vraiment une nouvelle façon de procéder, quoi.
Voilà, c'est ce que vous m'aviez un petit peu dit lorsque nous discutions précédemment. C'est qu'en fait, c'est un organiste assez original qui va venir faire ce concert parce que c'est un improvisateur. En fait, il n'y aura pas de partition déjà écrite. Enfin, du moins, lui, c'est sa spécificité personnelle.
Voilà, tout à fait. Il improvise d'après les tableaux. Alors... la présentation de Marie au temple, le deuxième tableau étant l'Annonciation, le troisième tableau le mariage de Joseph et Marie, le quatrième la visite à Élisabeth et le cinquième l'Assomption, qui est juste le tableau du milieu. Donc en s'inspirant de ces 5 tableaux, Jean-Luc Guyard, organiste dans la région parisienne, particulièrement à Saint-Cloud, viendra pour illustré en fait ces tableaux.
Voilà, mais il est aussi compositeur, je crois.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Il est compositeur, il a composé des très belles œuvres, il nous a proposé, par exemple, au chœur 10 cantates, qui va donc participer au concert, dans une de ses pièces qui s'appellera Regina Chili, qui a rapport avec la Vierge Marie. Et puis, il y a aussi l'intervention merveilleuse de Catherine Bernardini, qui va aussi réaliser des compositions de Jean-Luc Guyard et deux compositions qui s'appellent Incandescence. Et c'est des très très jolies musiques dans la cathédrale, ça va être très très joli. En dehors de ça, elle va chanter des Ave Maria de Schubert, de Gounod, de Caccini. Et donc nous allons alterner improvisation d'orgue avec chant soliste avec Catherine et l'intervention du chœur qui chantera aussi des œuvres, des extraits d'une messe de Haydn et puis le célèbre Regina Celi de Jean-Luc Guyard.
Donc un concert très très varié à cette occasion de la journée de l'orgue.
Et donc cette action va être aussi menée en concertation avec le conservateur du musée.
Tout à fait. Jacques Planchon a eu la gentillesse de venir nous parler des cinq tableaux de Louis Court. Et c'est formidable parce que Louis Court est un artiste haut alpin du XVIIIe siècle et qui est très connu dans la région et qui a fait aussi quatre tableaux dans la cathédrale de Gap, à Briançon aussi, et qui était aussi peintre de l'Académie de Rome. Donc c'est vraiment un artiste à ne pas perdre de vue, enfin, dans notre patrimoine de dit, c'est très important de se rappeler de tout cela.
Et oui, magie de la radio, nous allons maintenant nous téléporter dans la cathédrale de dit.
Nous sommes à la cathédrale et nous allons exposer un peu les jeux de l'orgue.
Alors, qu'est-ce qu'un jeu de l'orgue, en fait ?
Alors, il y a plusieurs sonorités dans l'orgue, c'est comme un orchestre. Alors, d'abord, c'est un instrument à vent et... Nous allons allumer la soufflerie parce que pour que le tuyau marche, il faut évidemment de l'air. Alors j'allume le compteur électrique et on entend le moteur qui se met en route et qui va propulser l'air dans des grands soufflets qui vont s'ouvrir. Et c'est comme une sorte de cornemuse où il y aura un réservoir d'air. Alors on peut le voir quand on le regarde, ouais, en enlevant ouais. les...
Voilà, la radio, ça, on va
voilà,
pas pouvoir le
c'est
voir
pas possible. Alors, avant que l'électricité soit installée, au temps de Bach, par exemple, il y a encore les leviers donc, qu'on voit. Et alors, on pompait, c'est-à-dire on levait le levier, on le descendait assez vite pour que le soufflet se remplisse d'air. Et après, l'organisme pouvait jouer. Donc, c'était une gymnastique. L'organisme ne pouvait pas s'en sortir seul. Il fallait vraiment des acolytes pour... ouvrir et baisser lever et baisser le levier. Voilà. Alors, vous entendez le bruit des moteurs. Donc, le soufflet est rempli d'air.
Celui qui baissait et levait les leviers, c'était en général...
Des gens manutentionnaires qui...
Dans l'église.
Oui.
Avant l'orgue, c'était plus religieux quand même.
Alors, c'est toujours religieux parce que cet orgue sert pour la liturgie. On s'en sert par exemple pour l'office de Pâques. Là, on va faire des choses joyeuses par rapport à la liturgie de Pâques. Et comme l'orgue est donc positionné de telle façon, ce qu'on ne voit pas tellement l'autel, on a installé une caméra avec un écran. La caméra est placée au-dessus de l'autel là-bas. Et puis donc l'écran, je l'ai à côté et je vois exactement ce qui se passe pour suivre la cérémonie liturgique. C'est comme ça qu'on va faire pour le jour de Pâques. Donc là, on va mettre les lumières, on va installer tout ça. Alors, je vais vous installer. Alors, il y a 500 tuyaux dans le buffet d'orgue. Le buffet, c'est l'encadrement en bois qui contient tous les tuyaux. Il y a des tuyaux de toutes les hauteurs. On voit du fond de la cathédrale les tuyaux de l'orgue. Et ça s'appelle les tuyaux de montre parce que ça, on voit les tuyaux. On les voit. Donc, en général, on démonte un tuyau et puis on montre aux enfants la longueur et il y a un son. Alors, plus le tuyau, évidemment, est long, plus le son est grave et plus le tuyau est petit. Il y a des tout petits tuyaux de quelques centimètres qui ont un son très aigu. Alors, ils peuvent être de différentes matières. Donc, je vais commencer à vous jouer un jeu de bourdon dont les tuyaux sont en bois. Et après, je vous expliquerai le mécanisme, bien sûr. Thank you. J'ai joué sur le premier clavier, car il y a deux claviers. Le premier clavier, il y a donc le jeu de Bourdon, et je peux m'aider aussi du pédalier. Il y a un clavier de pédale qui, donc on entend avec les pieds, donc le pied gauche, le pied droit, on peut jouer avec la pointe, le talon, des sons très graves. Voilà, c'est pour équilibrer les sons. Voilà. Je vais ajouter le jeu de flûte. Le jeu de flûte, c'est en matière métallique. Donc, je vais jouer le jeu de flûte qui est plus puissant. Après, mais on va aller en suivant. Je vais poursuivre avec un jeu de hautbois. Et pour faire le jeu de hautbois, je vais changer de clavier. On entend vraiment la différence. Donc là, c'est le jeu de hautbois. Ensuite, on va faire des combinaisons. Et là, je vais enlever mes chaussures parce que pour jouer avec le pédalier, il faut des chaussures très très souples ou alors jouer en chaussettes, qui est quand même plus pratique. Il faut une sensibilité avec les pieds qui est très importante. Je vais vous jouer un dialogue entre flûte et hautbois et accompagné avec la basse. Donc la pédale. Alors donc, au début on entend la flûte avec la pédale et après on aura le jeu de hautbois qui entre aussi, qui est plus percutant. Sur le petit clavier, en plus du hautbois, j'ai un jeu qui est très doux, un jeu d'ambiance, on pourrait dire, et pour la méditation. Alors ça s'appelle Voix céleste.
C'est ce jeu-là auquel je faisais allusion tout à l'heure, parce que c'est assez rare de trouver un instrument voix céleste sur un instrument moderne.
Tout à fait. Fermer les volets. On peut avoir vraiment la douceur de tous ces jeux qui sont très méditatifs, donnent une ambiance méditative. Voilà. Alors, on n'a pas fini dans le volume sonore. On a des jeux encore plus percutants et des jeux qui peuvent aller un octave au-dessus. On pourrait avoir des instruments très aigus, un instrument très aigu qui s'appelle Prestant, Prestant 4, c'est-à-dire on peut mettre le 4 pieds, c'est un octave au-dessus, c'est-à-dire quand on joue un jeu, une note, le jeu de flûte, si j'ajoute le Prestant, ça fait un octave au-dessus, la même note. Voilà, c'est pour donner du brillant au jeu. Donc on va entendre la différence, je vais jouer un morceau, donc flûte, à un moment je mets le jeu de Prestant et on va avoir un jeu plus brillant. On va bien entendre la différence. Différence de jeu, c'est dans cela qu'on peut dire que l'orgue est un instrument orchestral. J'ajoute que là, c'est la musique de Couperin, musique très vivante, là, du siècle de Louis XIV. Alors, on peut avancer encore dans le volume. On ajoute maintenant à tous ces jeux de Prestant, on va ajouter le jeu de montre, et puis... Le jeu de montre qui donne encore une amplification, ce sont les jeux qui sont tout devant dans le buffet quand on part du fond de la cathédrale. On va voir que c'est plus puissant. On s'aperçoit qu'il y a un écho formidable et que la cathédrale est une caisse de résonance pour l'orgue. Elle lui donne toute sa dimension sonore. Là, ce sont les jeux pour accompagner les foules qui chantent avec le jeu de montre. Et maintenant, on a plus de puissance encore. On va inaugurer, on va faire entendre les jeux de trompette. De trompette d'abord seule. Les jeux de trompette, et ça s'appelle des jeux d'anches, parce qu'il y a des petites lamelles qui ajoutées au tuyau et qui donnent ce timbre. On ajoute aussi le jeu de clairon qui est un octave au-dessus. Donc là, on a le jeu de trompette. Alors il est un peu faux.
C'était la date d'apparition des premiers orgues.
Ah, très intéressant. Du temps des Romains, il y avait des orgues hydrauliques qui marchaient avec de l'eau. Et après, il y a eu alors, toujours des orgues depuis les Romains, orgues hydrauliques. Et au début, les orgues étaient dans les cirques des Romains et n'étaient pas permis dans les églises. Et c'est par la suite que l'orgue a été admis à la fin du Moyen-Âge dans les églises avec des jeux doux, des jeux de bourdon, des jeux de flûte pour accompagner les chants. Mais au début, les jeux étaient trop forts pour être dans des églises. Donc voilà, et notre orgue date de très longtemps. Il y avait un orgue depuis très très longtemps.
Je ne sais plus la date. Ah, non, pas la date.
Alors, si, cet orgue-là, 1888, est arrivé. Oui. Mais avant, il y a eu un orgue qui était là habituellement. Et en 1845, il n'était plus en état de jouer. Mm-hmm. Il était d'ailleurs sur la tribune sur la gauche, au-dessus de l'entrée de la sacristie. Et en 88 est arrivé un orgue que Merklin, facteur Merklin, a remis en état, a installé. Il a mis des nouveaux jeux, le jeu de flûte actuel qui est magnifique. Et voilà, il a harmonisé. Et depuis ce temps-là, vraiment, on est très content de cet orgue. Après, il faut que je vous explique, bien sûr, avant d'entendre le tutti des orgues, parce que c'est quelque chose de formidable.
Et donc, le métier de facteur d'orgue, ça se perpétue. Enfin, on trouve encore
Oui, ils ont beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup d'orgues qui ne sont pas toujours rénovés, hélas, parce qu'il faut des gens pour s'en occuper, il faut des finances surtout. Il faut vraiment des finances. Là, on attend que le dossier de restauration, de relèvement de l'orgue soit complété par la mairie et vraiment relancé avec des facteurs. Il y a des facteurs à Lyon, des facteurs...
À qui appartient l'orgue
À la mairie.
À la mairie,
oui.
D'accord.
Donc c'est la mairie de s'en occuper. Ils doivent faire un budget pour ravaler, c'est-à-dire enlever toute la poussière qui est dans les tuyaux, dans toute la mécanique, qui est très complexe. Alors j'en viens à la mécanique, parce que là, on n'a pas fait le tour. Comment arriver du soufflet où il y a plein d'air, arriver à aller dans certains tuyaux, et les registres et les claviers, c'est les deux claviers et le pédalier, c'est très complexe. Il y a un système de vergettes qui est des choses articulées avec des tiges en métal et en bois. Et ensuite, l'accès à des soupapes. Les tuyaux sont fixés sur des sommiers verticalement. Et donc, à la base des sommiers, il y a des trous et il y a des soupapes en bas, comme dans les voitures. Et d'après les registres qu'on tire ou qu'on repousse, certaines soupapes s'ouvrent pour faire marcher certains tuyaux. Vous voyez, c'est extrêmement complexe, de combinaisons fantastiques. Alors, ici, cet orgue mécanique marche comme ça, mais l'orgue de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple, marche avec des ordinateurs fantastiques. Il y a beaucoup de claviers, et certains orgues ont 5 ou 6 claviers, vous voyez, et des jeux énormes, beaucoup de jeux. Il y a des combinaisons extraordinaires qui se font maintenant par ordinateur, et voilà. Alors ici, bon, c'est un orgue tout simple, mais qui a des jeux très intéressants et très jolis. Donc on se plaît beaucoup à jouer. Et c'est le patrimoine vraiment de Di, et c'est important. Alors je vous joue un morceau final avec tous les jeux. Je tire tous les registres et voilà. L'orgue n'est pas seulement un instrument liturgique. On peut aussi, par exemple, une anecdote, c'est qu'à la Notre-Dame de Paris, Balbastre, compositeur, a joué une adaptation de la Marseillaise sur les grandes orgues, et grâce à quoi la cathédrale et l'orgue n'ont pas été détruits pendant la Révolution. Mais là, je le joue à chaque animation scolaire. à la fin pour bien montrer aux enfants que l'orgue est un instrument en lui-même orchestral. Bien sûr, il est dans une église, mais il peut aussi... par exemple, il y a les concertos de Handel, qui sont des concertos écrits par Handel pour l'entracte dans ses opéras. Et je vais jouer deux de ces morceaux, de ces concertos de Handel, le 21 juin. Avec l'école de musique. Et l'orgue est tout à fait écrit pour ça. L'orgue est tout à fait adapté à ce genre de musique. C'est une musique dansante qui est très agréable.
Et oui, j'avais encore une question. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui composent pour l'orgue, je veux dire de compositeurs qui seraient encore vivants?
Oui, bien sûr. Les compositeurs pour orgue sont aussi organistes. Il y a les grands organistes. Saint-Eustache à Paris, Notre-Dame de Paris, il y a plein d'églises. Alors comme Jean-Luc Guyard qui en même temps ont l'habitude d'improviser dans les offices pour aller de l'une ou l'autre partie de liturgie, qu'ils font le lien pendant que le prêtre se déplace, ils ont l'habitude d'inventer la musique. Et là, c'est intéressant. Du coup, ils composent aussi. Alors Lithèse a composé. Alors il y a énormément de compositeurs actuels qui... Jean Guillou improvise beaucoup. Alors Ropart, ça date du siècle dernier, bien sûr, mais il est quand même...
Est-ce qu'il y a des... Parce que là, bon, on a entendu beaucoup de... Enfin, là, on a entendu principalement de la musique tonale.
Oui, est-ce qu'il y a classique.
Des compositeurs qui composent plus dans des gammes dodécaphoniques ou dans d'autres...
Oui, oui, Jean Alain, qui est mort maintenant, mais il a composé des choses... et c'est atmosphère. Des musiques d'atmosphère, ou alors avec des thèmes, du reflet. C'est en pleine évolution. D'ailleurs, nos appartements, l'association d'orgue de Die appartient aussi à l'association départementale dont le président est Jean-François Murjas, qui habite à Valence, et qui a une organisation à tous les... Tous les ans, nous nous réunissons pour réfléchir à ce qui donne un élan nouveau pour les organistes et vraiment innover toujours. Ensuite, il y a le grand mouvement national Orgue en France, dont le président est Philippe Lefebvre, qui est venu lui-même à Die pour voir cet orgue. Il a dit « Ah là, ça vaut vraiment la peine d'être relevé et réparé, parce que là, il a un très beau son. » Donc, il faudrait que les Diois... prennent conscience de que cet instrument a une valeur très intéressante, mais qu'au fil des années, si on ne le répare pas, si on n'enlève pas la poussière qu'il y a dans les tuyaux et le mécanisme des vergettes qui est très très complexe, il faut vraiment conforter et revoir tout ça pour qu'il marche encore longtemps.
Comment devient-on, je règle organiste. Un peu le... Ouais, organiste.
On peut s'exercer sur un clavier déjà pour débrouiller les mains. Peut-être sur un piano, mais pas trop longtemps sur un piano, parce que le toucher est différent. Le piano est quand même un instrument percussif avec des marteaux dedans qui frappent des cordes, donc percussion, et il faut donner une certaine force. Alors l'orgue, c'est un instrument avant, différent, qui est plus mou d'un certain côté, mais il faut quand même beaucoup de force d'articulation. Quand il y a beaucoup de jeu, il y a le clavier devient très dur. Sur certains orgues où il y a beaucoup de jeu, il faut quand même de la puissance dans les doigts. Donc un démarrage sur un clavier, ça peut être très très bien. Après, il faut coordonner avec les pieds, et c'est ça qui est difficile, l'indépendance, main droite, main gauche, avec les pieds, pied droit, pied gauche, talon pointe. Et tout ça, c'est toute une technique très importante qu'il faut beaucoup travailler. Mais on se fait beaucoup plaisir. Il y a des tas de jeunes qui sont venus, des petites classes qui sont venues, même des cinquièmes, des primaires, des classes primaires de Chabestan, des classes de Notre-Dame qui se sont venues à essayer l'orgue et qui étaient impressionnées. Et ils ont pu jouer des jeux de flûte, des jeux de trompette avec le clavier. Donc ça, c'était très étonnant parce qu'en général, il faut souffler. Et là, on a un clavier comme intermédiaire. C'est très intéressant. Il y a bien sûr des orgues numériques maintenant, mais qui n'ont pas le son d'un vrai tuyau, enfin mécanique, avec le son vraiment naturel d'un son qui arrive dans le tuyau, quoi. Je veux dire, c'est vraiment à part les orgues à laine qui ont des photos acoustiques, des sons qui ont ils ont reproduit des photos acoustiques des tuyaux de Notre-Dame, par exemple. C'est toute une histoire avec ça. Mais bon, rien ne vaut un bel orgue mécanique, avec une mécanique vraiment pure. Et là, le son est très intéressant, quoi.
Pour devenir organiste, il y a en France des classes d'orgue ouvertes à ceux qui ont déjà touché un clavier. Et puis il y a des stages que l'on peut trouver en particulier sur le site de Orgue en France. Ils vont en organiser, c'est un grand projet cette année, partout où il n'y en a pas encore, parce qu'il y en a déjà bien sûr des stages organisés l'été par une autre association. L'Enfol. Voilà, merci.
Il y a même des morceaux qui sont très figuratifs. Il y a un morceau de Balbast qui s'appelle La Chasse. Bon, je ne l'ai pas là.
Balbast, c'est quel...
Balbast, c'est 18e siècle, voilà. Et il a écrit La Chasse. Alors, il y a des choses très descriptives, figuratives, tout ça, qui ne sont pas forcément religieuses.
D'accord, ce que j'allais dire, c'est de la musique profane.
Oui, on peut dire. Oui, c'est ça, voilà.
Le coût de la restauration, parce que tout à l'heure on avait dit que...
Est-ce que je peux le révéler?
Je ne sais pas si...
Faut le dire. Bon, on a évalué à peu près à 140 000 euros pour la restauration.
Le
relevage complet, voilà. Nettoyer tous les tuyaux et vérifier la mécanique et peut-être changer le soufflet qui commence à être usé. Le 21 juin, pour introduire les concertos de Handel et aussi avec l'école de musique, pour montrer que l'orgue ne joue pas seulement seul, il joue aussi avec des cordes. Et là, il y aura les instruments de l'école de musique, l'orchestre baroque de l'école de musique, et on va jouer ensemble les concertos de Handel. Et puis après, il y aura les classes jeunes des collèges et lycées, la chorale toute nouvelle, qui va venir chanter le 21 juin. Après, je vais les accompagner à l'orgue, et ça sera le concert du 21 juin, quoi. Et après, je jouerai la Marseillaise, bien sûr. Donc, concert tout à fait profane. J'ai déjà joué avec des cors de chasse et avec les cors des Alpes l'année dernière. Les cors des Alpes, les cors qui sont dans les montagnes, ils ont des musiques tout à fait spéciales alpines traditionnelles, oui. Et ils m'ont donné une partition et je les ai accompagnés. Et c'était très intéressant d'allier le son de l'orgue avec le son des cors des Alpes. C'était une expérience très bien. Et puis les cors de chasse. Alors là, c'était encore plus puissant. La messe de Saint-Hubert, d'ailleurs, c'était un morceau sacré. Et puis il y a eu quelques morceaux pour appeler les animaux dans la chasse. Donc ça, c'était un peu plus profane.
Est-ce qu'on peut juste dire, parce que en fait là, moi je regarde l'orgue depuis tout à l'heure, mais le nombre de touches, en fait, je ne sais pas si ça s'appelle des touches
oui.
sur le...
Oui, les touches sur le clavier.
Oui, pour avoir une description un peu plus visuelle peut-être pour les auditeurs.
Ben, c'est comme un clavier ordinaire, mais il est un petit peu moins étendu que sur un piano, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de son étendu, étant donné que je vous expliquais tout à l'heure. Si on tire un jeu, on peut avoir l'octave au-dessus. Alors, avec un autre jeu, voilà, je fais un jeu, une note comme ça, ou bien une autre. Si je tire un jeu sans relever la touche, je peux avoir l'octave au-dessus. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir... Et là, si je fais la dernière touche, j'ai le jeu normal, et tout d'un coup, un octave au-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez, le système avec les registres différents, à différentes hauteurs, permettent d'avoir un clavier. On n'a pas besoin d'avoir un clavier trop étendu. On a 4 octaves et demi sur le clavier, en fait. Et le deuxième clavier sert à combiner les jeux, par exemple le jeu de bois avec le jeu de flûte en même temps. La main gauche sur le premier clavier et la main droite sur le deuxième clavier, sur le clavier du haut. Clavier supérieur, clavier inférieur. C'est comme une commande dans un avion. Puis il y a les jeux des pédales aussi, oui. C'est-à-dire Les pédales métalliques. Alors, il y a une commande qui permet.
Ce sont des commandes, d'accord.
Oui, d'ouvrir des volets qui sont tout en haut. Pour qu'on, on ait, alors, on a entendu tout à l'heure les jeux de récit. Enfin de, donc, là. Alors, si je mets la pédale, c'est plus intense, le volume est développé. Et si j'enlève la pédale, là, on a fermé les volets, si vous voulez. Pour avoir plus d'intimité.
Madame la trésorière qui est organiste, par rapport à l'orgue du temple, parce qu'il y a aussi un orgue temple de Die.
Oui.
Quelle est sa différence?
Alors, c'est un orgue qui a été donné au temple de Die par des Suisses. Donc, c'est un orgue plutôt de travail, on va dire, qui est beaucoup plus récent et qui comporte aussi deux claviers avec plusieurs jeux, mais dont les tuyaux sont beaucoup moins importants. Et je veux dire par là, ils sont d'une moindre puissance et donc on a moins de choix dans les jeux, dans le registre. Voilà, il y a des jeux de flûte, il y a un jeu de bourdon, une montre, un prestant et une doublette. Et
on n'a pas d'anche, en fait.
Il n'y a pas
de hautbois ni de trompette. C'est ça la différence,
ah,
en
oui.
fait.
Oui, oui.
Voilà. Et puis, on a la caisse de résonance qui n'est pas la même. Dans le temple, c'est plus petit. Dans la cathédrale, c'est plus grand. La caisse de résonance joue énormément dans le fonctionnement de l'orgue.
D'accord. C'est le côté dénuement des protestants, en fait.
Bon, pas forcément, parce qu'il y a des... Non, il y a des temples en France où il y a des orgues très importants, puisqu'on sait quand même que Bach a introduit la musique au temple. Et à partir de là, en Allemagne, on a des églises, puisqu'on les appelle toujours des églises luthériennes, où il y a des orgues extraordinaires.
Donc, Leipzig.
À Leipzig, par exemple, oui. Voilà, donc c'est pas une spécificité protestante d'avoir un orgue plus petit.
C'est une petite pique.
Voilà, donc bon, il se trouve qu'à Die, les Suisses ont été tout à fait sympathiques pour donner cet orgue et nous l'entretenons autant qu'on le peut aussi. En ce moment, il y a un projet surtout sur le chauffage du temple qui va enfin être rénové parce qu'il y a un accord qui ne tient absolument pas à cause du chauffage. Il fait 35 degrés en haut et donc comme l'orgue est accordé à froid, il est souvent faux. Voilà, donc ça c'est le projet 2015, c'est d'avoir un chauffage qui tienne le coup partout et d'avoir la même température pour qu'on puisse jouer sur un orgue juste.
D'accord. Et est-ce que le temple appartient aussi à la mairie?
Alors non, pas du tout. C'est l'orgue appartient à ce qu'on appelle l'EPU, c'est-à-dire l'Église protestante unie de France, puisque ça s'appelle comme ça maintenant.
Ça a changé avant, c'était.
Voilà, avant c'était l'Église réformée qui s'est unie à l'Église luthérienne. Donc maintenant il n'y a plus qu'en France qu'une Église protestante unie. Voilà, qui fait partie de la Fédération protestante. Mmh. Donc l'orgue appartient à cette association.
D'accord.
Mais nous, avec l'association de Die, on...
Qui est laïque, l'association
qui est... Voilà,
qui est une association laïque, parce qu'on avait dit que c'était œcuménique, mais enfin non, c'est...
C'est œcuménique dans le sens où c'est simplement les bâtiments, dire. Mais après, lorsque
protestants et catholiques, ça fait de l'œcuménisme. Mais effectivement, l'association des Amis de Langadie est une association laïque, et en ce sens, on essaie, c'est toujours notre but, d'ouvrir à des personnes qui ne vont jamais à la messe ou au culte, donc, et de montrer que les orgues sont ouverts à des musiques qui ne sont pas forcément religieuses.
Et voilà, nous sommes de retour dans les studios de RDIWA. Peut-être peut-on rappeler la date du concert ainsi que l'heure.
Alors dimanche 11 mai à 15h dans la cathédrale bien sûr, et c'est un concert gratuit.
Voilà, c'est un concert à entrée gratuite et donc tout le monde est bien sûr le bienvenu. On espère énormément de monde ce jour-là. D'ailleurs la publicité se fera aussi sur toute la région puisque Catherine Bernardini est quelqu'un de connu qui est originaire du Diwa mais qui est maintenant aussi une soprano tout à fait célèbre qui chante dans les plus beaux opéras à Lyon, à Genève. Donc elle a dit elle-même qu'elle faisait déjà beaucoup de publicité puisque dans la région de Cray où elle réside maintenant. Alors on espère beaucoup de monde. Et ce sera donc le premier concert de la saison pour notre association. Bien, voilà, il y en aura d'autres, n'est-ce pas ?
Bien sûr, nous aurons le second concert le 1er juin dans la chapelle Saint-Vincent avec une autre musique.
Voilà, alors ce sera alors de la musique klezmer, donc complètement différent. Et nous allons aussi venir à Radio Diwa pour une petite interview à ce sujet.
Peut-on aussi rappeler les coordonnées de l'association si on veut vous contacter ou s'il y a des auditeurs qui aimeraient adhérer aux Amis de l'Orgue Adi ?
Alors, pour adhérer, la cotisation à l'association, enfin l'adhésion, pardon, est de 12€ par an et elle peut toujours être adressée à Sophie Morel, donc à moi-même, qui habite Adi au 195 avenue Rhin et Danube. Et puis sinon, pour avoir des renseignements, peut-être Monique donne son numéro
06 75 61 25 01 et pour réserver donc vous pouvez m'appeler et
Bien, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre, une autre information à rajouter ou...
Non, nous espérons bien sûr qu'il y a beaucoup de monde à ce concert, qui sera magnifique de toute façon. Et nous avons eu notre assemblée générale qui promet encore beaucoup d'événements avec cette association qui vit très bien maintenant.
Bien, je vous remercie donc Monique et Sophie d'être venues dans les studios.
Merci à vous.
Merci également.
J'espère à très bientôt.
Oui, bien sûr. D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Charles-Marie Vidor, une toccata.